بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
Grâce au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange au Seigneur de demande, paix et bénédiction au vénéré prophète Abul Qasim al-Mustafa Muhammad et aux gens de la demeure. Soyez les bienvenus, chers frères et sœurs, aussi bien les frères et les sœurs qui sont ici de la part de l'Assemblée mondiale des gens de la demeure, béni soit-il, que ceux et celles qui sont de l'Union des radio-télévisions des pays islamiques, ainsi que les vénérables familles des martyrs ici présents. Je sollicite Dieu sublime de les gratifier toutes et tous dans son immense mansuétude. Une autre tâche accomplie par les imams infaillibles, et bénis soit-il, consistait à appliquer les préceptes divins. Ils œuvraient pour l'application des préceptes divins aussi bien lorsqu'ils étaient tenants du pouvoir que lorsqu'ils étaient écartés du pouvoir. Ils avaient concentré tous leurs efforts pour réaliser des préceptes divins au sein de la société. Une autre tâche à laquelle s'adonnaient les imams infaillibles, et bénis soit-il, consistait à la lutte sur le sentier d'Allah, ce que vous récitez à la prière du pèlerinage des imams, nous témoignons qu'il a dûment accompli le djihad sur la voie de Dieu. La tâche du djihad, autrement dit, ils ont agi de sorte qu'il ne manque rien dans la lutte sur le sentier divin. Ils ont combattu corps et âme avec toute leur force et leur compétence sur la voie de Dieu. Une partie essentielle de ce combat, qui en soi un chapitre entier, consiste à la lutte contre l'iniquité, la lutte contre l'oppresseur. La vie des imams infaillibles, béni soit-il, était entièrement consacrée à la lutte contre les oppresseurs, la lutte contre l'injustice. La raison de toutes ces pressions, ces emprisonnements, ces morts martyrs, etc., était justement cela, car il combattait la tyrannie et le tyran. Voilà la vie de nos imams. Nous souhaitons à présent être les adeptes des gens de la demeure. Il nous faut donc respecter leurs enseignements. Il nous incombe de propager les sciences islamiques. Aujourd'hui, l'exemple est par excellence du djihad qui est devant les yeux de nous les musulmans, nous les adeptes des gens de la demeure, et la lutte contre les plans de l'arrogance dans la région islamique, ce qui est aujourd'hui le plus grand combat. Il faut lutter contre les plans de l'arrogance. Il faut en premier lieu connaître ces plans. Il faut au premier abord savoir ce qui se passe dans la tête de l'ennemi. Il faut savoir ce qu'il va faire. Ensuite, nous procéderons à planifier des programmes et nous combattrons les desseins de l'ennemi. Il n'y a pas uniquement l'état de défense, de passivité. La lutte comprend à la fois la défense et l'assaut. Il est nécessaire tantôt d'être en état défensif, tantôt il s'avère nécessaire d'être en état offensif. Les deux, en fait, états de l'objectif consistent à combattre les projets de l'arrogance qui est aussi bien l'ennemi majeur et essentiel de la région que toute la région islamique, notamment cette région qui est l'Asie de l'Ouest. Cette région que les Européens insistent de l'appeler le Moyen-Orient, Autrement dit, il mesure l'Orient, l'Est par rapport à l'Europe. Une région est l'Extrême-Orient, une autre est le Moyen-Orient et une autre le Proche-Orient. Constate donc l'orgueil des Européens. Dès le début, ici c'est le Moyen-Orient, l'appellation de Moyen-Orient est fausse. Ici c'est l'Asie de l'Ouest. L'Asie est un vaste continent. Quant à nous, nous nous trouvons à l'ouest de l'Asie. Cette région est une zone très stratégique, importante du point de vue militaire, importante du point de vue de ressources naturelles, importante parce qu'elle relie les trois continents, Asie, Europe et Afrique. C'est une région importante. Ils ont des plans pour cette région. Il faut savoir de quoi s'agit-il et de les contrer. Voilà le combat véridique. Le Coran nous rappelle et lutter pour Dieu selon le droit de sa lutte. Verset 78 et sourate 22. Voilà ce qui est aujourd'hui du djihad pour Dieu. Le complot ourdi contre le monde de l'islam et surtout contre cette région n'est pas chose nouvelle. Depuis de longues années, il y a 100 ans, depuis la Première Guerre mondiale, jusqu'à maintenant, cette région est exposée aux pressions intenses des puissances arrogantes. Un jour, c'était l'Angleterre. Un autre jour, c'était les États-Unis et à une époque, la France. Il fait maintenant 100 ans ou plus que les puissances arrogantes sont ici. Or, ces pressions, ce complot, ces machinations se sont intensifiées depuis l'avènement de la révolution islamique. Il fait 35 ans que nous nous sommes habitués aux pressions de l'ennemi. La nation iranienne s'est habituée à ces pressions, menaces, sanctions, pressions sécuritaires, des complots politiques de tout genre. Il fait 35 ans que nous sommes confrontés à des pressions de tout genre et de toute taille. Voilà ce qui est de l'époque de l'avènement de la révolution islamique en Iran. Or, au tournant du mouvement de l'éveil islamique qui a débuté il y a 4 ou 5 années plus tôt en Afrique du Nord, en Égypte, en Tunisie et dans d'autres endroits, l'ennemi a redoublé ce durcissement des pressions. En d'autres termes, l'ennemi est désemparé dans le sens vrai du terme. Il s'est affolé. Ils ont fait beaucoup de choses et ils les poursuivent toujours. Ils s'imaginent, bien entendu, qu'ils ont réprimé le mouvement de l'éveil islamique, mais mon avis personnel, c'est que le mouvement de l'éveil islamique ne peut être réprimé. Il est vrai qu'ils ont fait des choses, mais ce mouvement existe. Il trouvera tôt ou tard la place qui lui revient dûment. En tout cas, ils ont décuplé ces dernières années leurs efforts. Ils ont beaucoup travaillé et ont introduit de nouveaux éléments dans les équations.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.